Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Eh bien oui, aujourd'hui Cap à Cap avec François Borde qui vient de vous saluer. Je reçois ce jour ce que l'on pourrait appeler, s'il accepte ce terme, un érudit, jugez-en, archiviste, paléographe, historien, inspecteur général des patrimoines, docteur en histoire médiévale, et encore nous ne savons pas tout à ce stade de l'émission, donc gageons qu'il va nous en apprendre beaucoup durant cette heure de conversation. Bonjour François Borde.
Bonjour Jacques Lavergne.
Alors François Borde, nous parlons de nos lieux respectifs de vie. Vous vivez aujourd'hui, je pense, du côté de Biarritz, c'est ça? Je ne me trompe pas?
Andaille, sur les rives de la Bidassoa.
Voilà, qui est peut-être votre lieu de naissance. Donc vous êtes de landais, je crois, d'origine.
Oui, je suis landais, très attaché aux Landes, je pense qu'on en reparlera.
Très attaché aux Landes ou très attaché à Hollande, je ne sais pas bien.
Aux Landes.
Il faut préciser, par les temps qui courent, vous savez, c'est important. Hein. Vous avez, oui, j'ai vu que vous aviez fait votre école primaire à Montfort-en-Chalosse.
Oui, Montfort-en-Chalosse, ça doit parler aux amoureux du rugby, puisque c'était le village des frères Boniface. Et donc, ce sont des vedettes locales que j'ai bien connues d'ailleurs. Et bon, André existe toujours. Guy, malheureusement, était disparu trop tôt. Et donc, j'ai vécu dans ce monde à la fois de rugby, de fêtes, etc.
Ça veut dire que vous avez pratiqué le rugby ?
J'ai surtout pratiqué le football, ce qui était un peu paradoxal au pays du rugby, mais au Stade Montois, qui est aussi une équipe de rugby, mais j'ai fait essentiellement du football, mais j'ai pratiqué un peu tous les sports quand j'étais jeune, comme beaucoup de Landais d'ailleurs, y compris le rugby, bien sûr.
Et la pelote basque ?
Alors, la pelote basque, non, très peu, très peu. Voilà, c'était juste parfois, avec les copains, on allait taper sur un fronton, mais voilà, non.
Je vois que vous avez également effectué la classe préparatoire du lycée Pierre de Fermat. Alors, Pierre de Fermat, je l'ai connu aussi en son temps. Et la classe préparatoire de quoi ?
Alors, c'était les classes préparatoires de l'École nationale des chartes. C'est une école supérieure dont on reparlera peut-être, qui est l'école supérieure de formation des archivistes paléographes. Et il y avait à cette époque-là deux lycées en France qui préparaient à cette école supérieure, qui était le lycée Henri IV à Paris et le lycée Pierre de Fermat à Toulouse. C'était un peu l'équivalent, si vous voulez, de Normal Sup, mais dans le cadre de l'histoire et de l'archivistique. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai fait mes classes préparatoires en sortant du bac que j'avais passé à Mont-de-Marsan. Et où j'ai été donc au lycée Pierre de Fermat, interne pendant 3 années pour préparer le concours de l'école des chartes.
L'internat du lycée Pierre de Fermat, ce n'est pas ce qu'il y a de plus jouissif.
Non, mais vous savez, en classe préparatoire, c'est du bachotage. C'est bon, on prenait quand même le temps de s'amuser, de jouer au tarot quelques nuits. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu sommaire à cette époque-là. Mais c'était aussi intéressant parce que moi j'ai découvert à Toulouse à cette époque-là la vie politique qui était très active et notamment j'étais assez engagé autour des rangs de lutte occitane à l'époque et de ces mouvements un peu d'extrême, à la limite extrême gauche anarchiste où il y avait, qui était très en conflit avec les mouvements d'extrême droite et qui était aussi très présent sur Toulouse à cette époque.
Peut-être croisé dans quelques manifestations, mon complice d'esprit occitanique s'appelle Jean-François Millard.
Mais oui, bien sûr, bien sûr.
Bon, ben nous le saluons au passage. Je serai avec lui en studio la semaine prochaine pour notre émission politique, puisqu'il fait partie de mes chroniqueurs. Et vous imaginez qu'avec un gaillard comme lui, les propos, c'est pas de la langue de bois, hein, on ne peut pas dire. Alors, l'école des chartes, c'est quand même une école assez peu connue, finalement, autant la rue d'Ulm, on connaît, mais l'école des chartes, pourquoi vous avez fait ce choix ? Qui particulier?
Alors, depuis mon adolescence, j'étais très intéressé par à la fois l'histoire et le côté documentaire de l'histoire. C'est-à-dire, j'ai passé mon temps à faire des fiches sur des tas de domaines, en particulier la Seconde Guerre mondiale, qui m'intéressait beaucoup, comme beaucoup d'adolescents. Et à l'époque où j'ai passé le bac, en fait, je me destinais plutôt à l'enseignement de l'histoire. Mais c'était une époque où déjà il y avait de gros problèmes de recrutement pour l'agrégation. Le nombre des postes avait été réduit. Et donc, mes parents ont préféré me faire suivre une formation qui était plus dure que de préparer l'agrégation, parce que les classes préparatoires, ce n'est pas du gâteau, mais aussi qui permettait, si j'avais le concours, bien sûr, d'avoir la sécurité de l'emploi, je dirais, c'est-à-dire de servir l'État pendant 10 ans, ça c'était une obligation, mais aussi d'être sûr d'avoir un poste de fonctionnaire d'État. Et donc, voilà, je me suis engagé dans cette voie-là. Et puis, bon, alors, je me suis engagé plutôt pour l'histoire et la recherche, et j'ai découvert au fur et à mesure ce qu'était vraiment le métier d'archiviste, qui n'avait que peu à voir en définitive avec la recherche, c'est-à-dire que nous sommes là plutôt pour favoriser la recherche des autres, pour l'aider, contribuer au développement de cette recherche, mais pas pour la faire nous-mêmes. Je n'ai pu le faire qu'après, une fois que j'ai eu bien maîtrisé mon métier.
Où est-ce qu'elle se trouve, l'école des chartes à Reims, je crois, c'est non?
Non, 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 l'école des chartes est à Paris. Alors, elle était à
D'accord.
Paris, à mon époque, place de la Sorbonne,
Ouais.
c'est-à-dire qu'elle était dans les locaux de la Sorbonne, juste quand vous êtes face à la chapelle, place de la Sorbonne. Vous avez à droite l'entrée de l'université, Paris 4, et à gauche, vous avez l'école des chartes, dans un petit bout de l'aile. Elle a déménagé il y a quelques années maintenant, et elle se trouve dans la rue de Richelieu, près de la Bibliothèque nationale. Voilà. Et d'ailleurs, la bibliothèque d'École des Chartes a été intégrée dans la restructuration de la Bibliothèque nationale de France de la rue de Richelieu.
Vous étiez nombreux dans ce type de formation?
Non, le recrutement, c'était, il y avait, quand j'ai passé le concours, il y avait 18 postes. Donc, 18 postes, et on était à peu près 100 à 120, suivant les années, à passer le concours, donc la majorité à Paris, en gros 80, et nous étions à Toulouse en classe prépa une vingtaine à peine. Il y en avait chaque année deux ou trois qui arrivaient à avoir le concours au niveau de la charte toulousaine.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend à l'école des chartes? J'ai été me renseigner un peu, j'ai regardé, j'ai vu que c'était extrêmement varié et en plus des matières absolument passionnantes.
Ah, tout à fait, oui. Puis c'est vraiment des matières qu'on découvre complètement. On découvre la paléographie d'abord, parce que ça, c'est notre spécialité, c'est-à-dire la lecture de toutes les écritures anciennes depuis le Moyen Âge, qui nous permet après de lire et transcrire des documents, surtout de les analyser pour faire des inventaires, ou pour aider les chercheurs qui n'ont pas cette capacité à décrypter les documents anciens. Et on apprend la diplomatique, c'est-à-dire à décrire les documents et à trouver dans les documents tout ce qui peut aider à leur compréhension. On apprend le droit privé, on apprend l'histoire de l'art aussi, puisque l'École des chartes était à cette époque-là le seul institut de formation supérieure autour de la conservation, alors que maintenant il y a l'Institut national du patrimoine qui forme les conservateurs. À l'époque, il n'y avait que l'École des chartes. On faisait 2 années de tronc commun et ensuite on choisissait une option qui pouvait être soit archives, qui était la voie, je dirais, royale, soit bibliothèque, et les gens ensuite continuaient à l'École normale nationale supérieure de bibliothèque à Lyon, soit l'École du Louvre pour les futurs conservateurs de musées. Voilà. Alors que maintenant, c'est le contraire, c'est-à-dire que les gens font l'école du Louvre pour les musées ou l'école des bibliothèques ou l'école des chartes pour les archivistes. Et ensuite, on passe, en sortant de ces écoles-là, on passe un nouveau concours pour rentrer à l'Institut national du patrimoine, ancienne école nationale du patrimoine, qui est à Paris aussi, et qui forme vraiment les conservateurs dans toutes les spécialités.
Ce sont des formations qui sont toujours aussi courues qu'avant ou moins?
Ben, non, je crois que ça stagne un petit peu, mais il y a toujours quand même des candidats qui sont intéressés justement par l'histoire. Alors maintenant, l'école des chartes, c'est beaucoup modernisée. Si vous allez sur son site, vous verrez que elle se tourne beaucoup vers ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire vers tout ce qui peut aider en termes d'informatique et de numérique à la connaissance de l'histoire et à sa valorisation. Elle est très en lien avec la recherche au niveau des grandes universités françaises. Elle est d'ailleurs maintenant dans un pôle, un laboratoire qui réunit un peu des grandes universités parisiennes, le comité des travaux historiques et scientifiques. Voilà, donc elle s'est vraiment mise à la page et c'est devenu vraiment un institut, plus un institut de recherche que en définitive, que de formation de conservateurs, puisque ensuite, les gens qui veulent continuer passent le concours de l'Institut national du patrimoine qui, là, va les former vraiment au métier de conservateur.
Vous allez être sorti avec le diplôme d'archiviste paléographe après avoir soutenu une thèse sur le sujet à laquelle nous reviendrons tout à l'heure, recherche sur la sorcellerie dans le Béarn, les Landes et le Labourg sous l'Ancien Régime. Donc, nous viendrons dans la deuxième partie de l'émission à cette problématique et la sorcellerie. Et alors, donc, vous sortez de l'école des chartes et je vois que vous êtes nommé conservateur aux archives d'outre-mer. Alors, moi, je me suis dit, il est allé sous des cieux ensoleillés, magnifiques, la mer. Et puis, non, c'était Aix-en-Provence. Alors, comment ça se fait, ça?
Ben, il se trouve que les archives, ce qu'on appelle le centre des archives d'outre-mer, maintenant les archives nationales d'outre-mer, en fait ont été créées au moment de la décolonisation, et notamment avec le plus gros de ces archives qui était constitué par les archives rapatriées d'Algérie. Et quand elles sont parties sur des bateaux un peu, on va dire, en vitesse, en 62, il a fallu leur trouver un lieu d'accueil. Le plus simple, c'était, puisque les containers arrivaient à Marseille, c'était d'essayer de trouver quelque chose du côté de Marseille. Et il se trouve qu'il y avait tout ce terrain qui était juste à côté de l'université d'Aix-Marseille, mais qui était à Aix-en-Provence, où on a décidé, pour rester en contact aussi avec les populations qui étaient aussi rapatriées de ces zones-là, eh bien de construire à partir de 63 jusqu'en 66 à peu près, le Centre des archives d'outre-mer, qui a accueilli donc non seulement les archives d'Algérie, mais aussi celles d'Indochine, celles d'Afrique équatoriale française, celles des comptoirs de l'Inde, vous voyez tout Madagascar, donc toutes les zones que la France avait quittées en emportant ces documents essentiels de gouvernement. Voilà. Donc, le principe, c'était normalement qu'on avait laissé sur place ce qu'on appelait les archives de gestion qui devaient servir au gouvernement qui se mettait en place dans ces territoires-là. Donc ce centre a été créé là, il est toujours d'ailleurs en activité, on en reparle régulièrement, notamment quand il est question, comme d'ailleurs ces temps-ci avec le rapport de Benjamin Stora, dont un des articles concerne encore les archives d'Algérie, parce que le problème n'est toujours pas réglé sur la restitution physique de ces archives-là. C'est toujours un problème diplomatique très épineux. Moi, j'ai vécu, puisque j'y suis arrivé en 78, et j'y suis resté jusqu'en 90, j'ai connu, par exemple, la période très difficile où François Mitterrand avait décidé de restituer un certain nombre de documents, qui étaient d'ailleurs des archives de gestion qui auraient dû rester en Algérie, mais pour les gens qui étaient là, c'était vraiment une perte de leur patrimoine et de leurs racines, notamment les rapatriés. Et donc, nous avons vécu des semaines et des mois difficiles avec la présence de gendarmes mobiles dans nos archives pour nous protéger d'éventuels attentats de nostalgiques de l'Algérie française. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de cette restitution, justement? Je parlais dernièrement, sur cette antenne de la restitution des œuvres avec une conservatrice de musée que vous connaissez un peu, je crois, qui doit se trouver peut-être pas très loin dans votre maison. Qu'est-ce que comment vous positionnez par rapport à ça? Est-ce qu'il faut restituer? Alors là, on parle d'archives, mais on peut aussi parler d'œuvres d'art. Est-ce qu'il faut restituer ou pas?
Alors, sur la restitution, je pense qu'à l'époque, le problème qu'il y avait, c'était que le seul support de substitution, je dirais, aux documents physiques que nous conservions, c'était le microfilm. Bon, le microfilm, ce n'était pas extraordinaire. Maintenant, on a une numérisation qui s'est organisé, qui est de qualité et qui peut largement remplacer voilà, l'original. Alors le problème, c'est un problème symbolique, c'est-à-dire que l'Algérie part du principe que les archives ayant été produites sur le sol algérien, il faut mettre en premier la territorialité des archives. Les Français, de leur côté, considèrent que les archives ayant été produites par le gouvernement français et par l'administration française, ce sont les archives de l'administration française qui doivent être conservées en France. Voilà. Donc, si chacun reste campé sur ses positions, on n'en sort pas. La solution qui avait été mise en œuvre en Afrique occidentale, notamment au Sénégal, avec les archives nationales du Sénégal, ça avait été de dire, eh bien, écoutez, on va microfilmer toutes ces archives avant qu'elles n'arrivent en France. En fait, non, le microfilm avait été fait par les Français et nous avions conservé le microfilm, les archives étaient restées en Afrique occidentale, où elles avaient été conservées d'ailleurs après le départ de la France. Les Algériens ne veulent pas cette chose-là. Moi, ce que je pense, c'est que le principal, ce n'est pas tellement la conservation ou la non-conservation, c'est l'accès aux archives. C'est-à-dire qu'en France, les Algériens, ils viennent voir les archives, aux archives d'outre-mer, ils ont accès à toutes les archives. Ce qui semble quand même ne pas être le cas en Algérie. C'est-à-dire que quel que soit de toute façon le lieu de conservation des originaux, et que ces originaux soient numérisés ou pas, il faut avoir accès à l'information. Or, il semblerait qu'il y ait beaucoup de difficultés en Algérie, où ces archives ont un contenu politique évident, et qu'il y ait des problèmes pour les chercheurs algériens qui préfèrent encore venir en France, se déplacer en France pour voir les archives en France, parce qu'ils sont sûrs de les voir, que de les avoir en Algérie, où ils ne seront jamais sûrs de les avoir complètement. Voilà. Donc moi, je suis pour la communication libre,
Oui.
c'est-à-dire numérisation vraiment systématique et numérisation et mise en ligne de toutes ces archives. Comme ça, elles seront disponibles pour les Algériens, les Français, les Américains qui veulent travailler, les Chinois qui veulent travailler sur ces archives. L'univers pourra avoir accès à ces archives.
Vous avez poursuivi votre carrière en dirigeant des archives départementales en Dordogne, et puis après vous êtes venu à Toulouse, où vous avez occupé le poste pendant quasiment 20 ans. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions. Vous avez laissé une trace importante au niveau de Toulouse et des archives, bien sûr. Et puis en 2007, alors que vous étiez déjà un homme mûr, si vous me permettez cet adjectif, vous avez soutenu un doctorat en histoire médiévale à Toulouse Mirail, dont vous êtes revenu à vos premiers amours. Mais pourquoi à cet âge-là, alors que vous étiez installé, reconnu, vous êtes allé vous mettre dans je veux pas dire cette galère, parce que j'imagine que c'était un plaisir avant tout, mais c'est quand même pas très simple un doctorat.
Non, c'est pas très simple, surtout que entre le moment où j'étais étudiant et le moment où j'ai soutenu ce doctorat après 50 ans, les choses avaient changé. Quand j'étais jeune, un doctorat d'État, ça prenait 10 ans, 12 ans, on avait le temps de le faire, etc. Et là, c'était ce qu'on appelait la thèse Nouveau Régime. Donc, il fallait faire en 3 ans, ce qui correspondait en fait, en gros, plutôt à ce qu'on appelait, nous, de notre époque, une thèse de troisième cycle. Et donc c'était plus difficile. Bon, j'ai bénéficié quand même de dérogations, heureusement, puisque je continuais à travailler à temps plein, donc je ne pouvais vraiment m'atteler à mes recherches que le soir ou le week-end. Bon, ce qui est sûr, ce qui me facilitait la tâche, c'est que j'ai travaillé sur un sujet qui était la mémoire urbaine, qui me semblait être vraiment très bien représentée à Toulouse, et notamment autour d'une collection exceptionnelle qui devrait être classée d'ailleurs au patrimoine de l'humanité, qui est celle des capitouls de Toulouse, des annales capitulaires de Toulouse, des annales manuscrites avec les enluminures, du moins de ce qu'il en reste après le passage de la Révolution française. En fait, bon, c'est parce que tout simplement, à cette époque-là, d'abord, je maîtrisais bien mon métier et mon sujet. Donc, disons que j'avais un peu plus de temps pour mes propres recherches personnelles. Et quand je crois que j'étais chercheur dans l'âme, donc dès que j'ai pu un petit peu mettre en œuvre ce goût de la recherche, je l'ai fait. On avait donc des archives exceptionnelles et le sujet de la mémoire urbaine était un sujet qui me passionnait et qui était un peu aussi à la mode dans ces années 2000-2010. Donc, je me suis dit, ben, là, voilà, j'ai un beau sujet. Il y a très peu de gens qui travaillaient encore sur le Moyen Âge et sur les documents médiévaux. Maintenant, c'est vrai que les chercheurs préfèrent travailler à partir de Gallica et des impressions et des imprimés, alors que souvent, dans ces impressions et ces imprimés, il y a des erreurs et qu'il faut souvent revenir à l'original. Et moi, j'avais les originaux. Donc, voilà, j'ai proposé, dans ma thèse, une analyse de ce type particulier de mémoire urbaine qui était celle des capitouls de Toulouse et une restitution. Alors ça, c'était une partie de ma thèse qui était très chartiste, je dirais, c'est-à-dire, c'était un travail classique des étudiants de l'école des chartes, de reconstituer des manuscrits perdus à partir de copies différentes, de comparer, de vérifier et d'établir un document le plus proche possible et le plus documenté possible par rapport à un original disparu.
Donc, quel regard vous portez aujourd'hui sur les archives, sur l'administration des archives? Est-ce qu'on se donne les moyens de conserver notre mémoire?
Ah oui, de toute façon, les archives, heureusement, suivent l'évolution de la société et surtout, ce qui est le principal, l'évolution de la production administrative, puisque notre rôle en tant qu'archiviste d'archives publiques, départementales, municipales ou nationales, c'est de conserver en premier lieu, en priorité, la mémoire publique, c'est-à-dire celle de l'administration. Or, cette mémoire de l'administration, elle a beaucoup évolué, notamment avec la révolution numérique. Donc, le rôle de l'archiviste maintenant, c'est plus tellement d'être un spécialiste de la conservation du papier, bon, ça c'est la base, mais c'est aussi, il doit devenir un spécialiste de la conservation des archives numériques, des archives électroniques, de l'archivage électronique. Et donc, là, on a tout un nouveau métier qui est arrivé, en définitive, et qui nécessite de travailler avec des gens avec lesquels on était un petit peu peut-être éloigné parfois, hein, c'est-à-dire les services informatiques des collectivités, de mettre en place des systèmes qui nous permettent, pardon, puisqu'on voit bien maintenant avec les affaires des hackers sur les hôpitaux, par exemple, des choses comme ça, qu'il faut absolument protéger, conserver, savoir protéger, savoir conserver cette mémoire et avoir en permanence des mises à jour et des veilles et des sauvegardes sur des serveurs distincts pour pouvoir à tout moment avoir accès à cette mémoire électronique. En sachant que il faut qu'on puisse faire avec cette mémoire électronique tout ce qu'on fait avec la mémoire papier, c'est-à-dire la trier, la classer et la communiquer en permanence. Et là, c'est le gros problème, c'est d'avoir des fichiers informatiques qui permettent à tout moment, et quelle que soit l'évolution des systèmes, de pouvoir avoir accès à l'information.
Qu'est-ce qu'on conserve aux archives? Ça veut dire que tous les services de l'État et ceux des collectivités locales transmettent systématiquement tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils écrivent aux archives départementales?
Alors, si on conservait tout, je crois qu'on serait très vite saturé, que ce soit en papier ou même en archives électroniques. Non, non, depuis des décennies maintenant, on a mis en place des tris et qui nous permettent de savoir ce qu'il faut conserver en priorité. Donc, nous travaillons au niveau national avec les ministères de tutelle dans tous les secteurs, que ce soit la justice, l'éducation, la sécurité, etc., pour mettre en place des cadres de tri qui vont nous dire, pour chaque type de document qui est produit par les administrations, quelle est leur issue, c'est-à-dire au terme de leur validité administrative, c'est-à-dire quand l'administration n'en a plus besoin, qu'est-ce que va devenir ce dossier, ce document? Est-ce qu'on doit l'éliminer ou est-ce qu'on peut l'éliminer? Est-ce qu'on doit l'éliminer? Est-ce qu'on doit faire un tri dedans qui va, par exemple, pour ce qui est des. On va pas garder, par exemple, toutes les copies du bac de toute la France, de tous les secteurs. Donc, on va se dire que Ben, on va garder les copies du bac, par exemple, du bac général, du bac littéraire, tous les 10 ans, les années en zéro. Et puis les années entre 1 et 9, eh bien, on les élimine. Comme ça, on aura des tranches de mémoire qui vont nous permettre aussi d'avoir des couches archéologiques, si vous voulez, de cette mémoire, des strates qu'on va constituer. Après, il faut que chaque archiviste soit capable d'analyser la spécificité du territoire dans lequel il vit. C'est-à-dire que moi, en tant que directeur des archives de Toulouse, il y avait certains dossiers, par exemple, concernant l'urbanisme, que je pouvais éliminer, mais que j'ai décidé de conserver parce qu'il y avait une spécificité toulousaine qui me paraissait importante. Donc, nous sommes essentiellement des conservateurs, mais nous sommes aussi des éliminateurs, et nous avons cette responsabilité devant l'histoire à venir de faire disparaître des documents en essayant de prévoir quelle va être la recherche de mer et sur quoi elle va s'appuyer pour faire cette recherche. Ce qui n'est pas facile, parce que la recherche évolue en permanence aussi, et que donc on peut être amené parfois à faire quelques erreurs, à faire disparaître des pans entiers de la mémoire en jugeant à notre époque qu'elles n'ont aucun intérêt, alors que dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, il y aura peut-être un axe de la recherche qui va pouvoir interroger, qui aurait pu interroger ces documents si on les avait conservés. Donc on a cette responsabilité qui est importante. Hein.
Conserver du papier, c'est pas simple, mais on y arrive bien et depuis des siècles. Est-ce que vous pensez que conserver des informations sur ces nouveaux systèmes, je ne sais pas comment il faut les appeler, numériques,
Oui.
ça va, on va les conserver aussi longtemps qu'on a conservé le papier?
C'est une très bonne question. Nous, archivistes, nous n'en sommes pas persuadés. Nous essayons toujours de travailler avec les techniciens et les sociétés informatiques, d'ailleurs, qui sont importantes dans ce domaine, pour essayer de trouver les meilleures solutions pour la meilleure garantie de sauvegarde et de conservation de ces données. Mais il était évident que le numérique, c'est volatile. Et on le voit bien tous les jours. On peut faire cramer un disque dur externe, on peut faire cramer des disques durs internes, même d'ordinateurs, de systèmes. Bon,
Et puis
disons qu'on a mis
pardon,
les...
François Bordes, je vous coupe, mais les techniques peuvent évoluer et peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, que sais-je, on ne saura plus lire ce que l'on a numérisé avec une certaine technique. Et là, c'est perdu.
L'un des aspects de notre travail, c'est justement de mettre les informaticiens et les sociétés informatiques, les techniciens, devant ces réalités, et donc de travailler à des systèmes qui sont des systèmes codés, en fait, qui nous permettent à tout moment, quel que soit, qui nous permettront, j'espère, à tout moment, quel que soit le système et l'évolution des systèmes, de pouvoir récupérer et remettre à jour ces données. Donc, bon, c'est un pari sur l'avenir, hein.
Oui, c'est une question de foi plus qu'autre chose.
Voilà.
Vous avez fini votre carrière au collège archives de l'inspection des patrimoines. Alors, qu'est-ce que c'est que le collège archives de l'inspection des
Alors,
patrimoines?
il y a une vingtaine d'années encore, il existait dans toutes les grandes directions patrimoniales françaises, au ministère de la Culture, dans chaque direction, il y avait un secteur d'inspection. Il y avait une inspection des archives de France, il y avait une inspection des musées de France, il y avait une inspection de l'archéologie, il y avait une inspection de l'inventaire, voilà. Et Frédéric Mitterrand, quand il est arrivé au ministère, a trouvé que c'était un peu, voilà, c'est un peu éparpillé, et donc il a souhaité regrouper toutes ces inspections dans un corps qui s'appelle l'Inspection générale des patrimoines, qui était donc presque directement sous le ministre ou la ministre successif, à la Direction générale des patrimoines, et qui regroupait toutes ces spécialités. Donc voilà, dont la spécialité, donc nous étions regroupés, nous appelons ça des collèges. Il y avait six collèges, il y avait monuments historiques, inventaires, musées, archives, archéologie, et j'en oublie un, voilà, bon. Nous étions ensemble et nous travaillions dans ce corps de l'inspection. Notre rôle à nous du collège d'archives, c'était d'aller sur le terrain, faire des inspections dans les services d'archives départementales, éventuellement d'archives municipales, notamment les plus importantes, à la fois pour veiller à ce que localement toute la réglementation soit bien appliquée, à rencontrer les autorités préfectorales et départementales pour repositionner ou positionner mieux parfois les services d'archives et montrer l'intérêt de ces archives parce que parfois c'est un peu ça a un peu disparu, et à rencontrer les équipes pour voir comment elles travaillaient. À l'issue de cette inspection, nous rédigions un rapport qui était envoyé à toutes les autorités et qui faisait un peu le point dans tous les secteurs, aussi bien des bâtiments, des ressources humaines, de l'aspect scientifique, de l'aspect pédagogique du travail de ces archives, qui faisait un peu un point d'étape, si vous voulez, qui pouvait aider aussi nos collègues sur le terrain à défendre un peu leur beefsteak, je dirais, auprès des collectivités, notamment, puisque maintenant les archives départementales, notamment, sont mises à la disposition des conseils départementaux. Donc voilà, on avait ce rôle à la fois de conseil, parfois aussi d'inspection un peu disciplinaire quand il y avait certains problèmes dans des services, et donc d'essayer de faire les intercesseurs un petit peu entre des équipes qui pouvaient être en conflit avec la direction ou les cadres, et donc d'être un peu l'œil extérieur qui allait amener un peu de sérénité. Voilà.
Et si tout le monde conserve les collectivités locales, l'État, donc collectivités locales, le département, les villes les plus grandes, j'imagine, il faut avoir quelques moyens. Est-ce qu'il n'y a pas des doublons ou des conservations en triple ou en quadruple ou que sais-je?
La réflexion qu'on mène, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les tris et les éliminations, bien sûr, fait une part à ces problèmes-là. C'est-à-dire que nous essayons toujours de conserver le document matrice, c'est-à-dire à l'endroit où il a été créé. Alors, bien sûr, après, dans les dossiers, on trouve, par exemple, il y a une décision, avant qu'elle soit prise, elle va passer par 10 services différents. Donc, ça ne nous intéresse pas de voir la même photocopie de documents dans 10 dossiers différents. Hein. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le début de la procédure administrative ou du document administratif et la finalisation avec la signature. Voilà. Et puis, d'essayer d'expurger, je dirais, de tous les dossiers. Par exemple, les dossiers financiers, c'est énorme, les dossiers financiers des collectivités. On ne va pas garder toutes les factures, etc., partout. Les services produisent des factures, mais les font passer à la direction des affaires financières de la collectivité. Et c'est là qu'il faut conserver les choses. Mais les factures, on les garde 2, 3 ans, pas plus. Après, ça n'a plus de validité. Donc on va Par contre, les budgets des collectivités, ça, on va les garder. Les budgets prévisionnels, les budgets réalisés, le compte administratif des collectivités, tout ça, on va le garder parce que ça, ce sont des documents essentiels à la connaissance et à la recherche. C'est aussi des documents essentiels pour le suivi du travail des administrations et des collectivités.
François Bordon, écoute un peu de musique. Vous avez fait un choix, un monsieur que j'ai eu au micro. Nous avons fait une très belle émission ensemble il y a plusieurs années, Vicente Pradal.
C'est
Pourquoi
un vieil ami.
ce vieil ami? Donc vous avez dû aller manger les huîtres avec lui au bord de l'Eucate, j'imagine.
Voilà. Mais je l'ai bien connu à Toulouse quand il était tout jeune et qu'il ne savait pas encore ce que serait sa voix. Il était à la recherche de sa voix. Il avait 15 ans. Donc je connaissais très bien sa famille, Claire, sa mère. Et j'étais dans ce milieu aussi. D'artistes qui étaient à une époque où il y avait tous les grands combats par rapport au Chili, par rapport à l'Argentine, par rapport à la Catalogne sous Franco, tous ces grands concerts du Palais des Sports, comme on l'appelait à l'époque à Toulouse.
Alors, qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire entendre de Vicente Pradal?
Alors, c'est le Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, qui est un llanto de Federico García Lorca, qui est la mémoire donc d'un matador qui est mort à l'heure où justement il aurait dû théoriquement être, c'était l'heure traditionnelle du paseo, à la 5 de la tarde.
Nous écoutons Vicente Pradal.
A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana. A las 5 de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida, a las 5 de la tarde, lo demás era muerte. Y solo muerte hay a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. La lucha, la paloma y el leopardo. A las 5 de la tarde, justo con un asta desolada. A las 5 de la tarde, comenzaron los sones de Bordeaux. A las 5 de la tarde, en la campana.
Cinco en punto de la tarde.
Voilà, c'était Vicente Prada, le choix de notre invité François Borde, de notre historien archiviste, paléographe et bien d'autres choses. Alors venons-en, François Borde, si vous le voulez bien, à la sorcellerie, puisque vous avez soutenu, c'était votre thèse de sortie de l'école des chartes, mais c'est
Oui.
aussi un livre Sorciers et sorcières, procès en sorcellerie en Gascogne et Pays Basque, chez Privas, c'était en 1999, j'imagine qu'on peut le trouver encore.
Difficilement, difficilement parce que lorsqu'il a été épuisé, la maison Privas n'a pas souhaité le réimprimer, alors que quand même c'est un sujet qui est un sujet, je dirais, qui revient régulièrement à la mode, on le voit bien en ce moment, et notamment avec l'exposition à laquelle j'ai participé au Muséum d'histoire naturelle, que j'espère on va découvrir un jour quand les musées rouvriront. Et donc, ce livre avait été épuisé, n'a pas été réédité. Il avait été récupéré, je dirais, par une maison d'édition de Madrid qui en a proposé une traduction en espagnol, qui elle aussi a été épuisée et pas rééditée. Donc, il faut aller sur les sites de bouquinistes pour en trouver quelques exemplaires.
Ou alors, si on a un peu de temps, monter dans ce village qui s'appelle Montaulieu et chercher dans la trentaine de librairies qu'il y a.
Voilà.
On cherche quelque chose, on en trouve d'autres, donc c'est toujours un bon moment.
Sinon, bien sûr, dans toutes les bibliothèques, les bonnes bibliothèques, notamment la bibliothèque de la rue Périgord, qu'on connaît bien à Toulouse.
Ah, tout à fait. Où j'y ai passé beaucoup d'heures en tant qu'étudiant. C'était très agréable. Alors, pourquoi cette dilection ou cette attirance pour la sorcellerie?
Mais en fait, c'est un peu un accident, je dirais. Il se trouve que lorsque j'ai dû choisir mon sujet de thèse, quand j'étais à l'école des chartes, c'était en première année de l'école. Je voulais absolument travailler sur mon pays, sur les Landes. Donc, j'ai commencé à travailler à essayer de travailler sur l'histoire économique et religieuse, je dirais, des Landes sous l'Ancien Régime, parce qu'il y avait de grandes abbayes, notamment celle de Saint-Sevé. Donc, j'ai essayé de voir quelles étaient les sources dont je pouvais me servir. Et en définitive, il n'y avait pas de sources sérielles, c'est-à-dire avec des séries continues qui me permettaient de travailler vraiment de manière sérieuse. Donc, j'étais un peu perdu, et à ce moment-là, on m'a dit, mais tu pourrais rencontrer quelqu'un qui est un historien, qui est aussi un ancien chartiste, qui s'appelle Yves-Marie Bercé. Alors, Yves-Marie Bercé, pour les historiens de notre région, c'était le spécialiste à l'époque des révoltes populaires au XVIIe siècle. Il avait écrit un grand ouvrage, plusieurs ouvrages même, de référence. Et donc, je l'ai rencontré et il m'a, chez lui, alors il avait ses fiches papier dans des boîtes à chaussures, je me rappelle, ça m'avait marqué, des milliers de fiches papier. Il m'a dit, écoutez, voilà, lorsque j'ai travaillé sur les révoltes populaires, j'ai croisé à plusieurs moments la sorcellerie. J'ai pas pu y travailler, mais je pense que là, bon, c'est pas facile, ça sera pas facile, mais il y a quelque chose à travailler sur la sorcellerie, son lien avec la société, les révoltes, etc. Voilà. Et donc, je me suis dit, ben pourquoi pas, parce que la sorcellerie, ça faisait quand même référence à l'histoire culturelle de mes Landes et de ma région. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai commencé à y travailler. Alors, effectivement, ça a été un travail de fourmi, parce qu'il faut lire parfois entre les lignes. Il faut dépouiller des dizaines et des dizaines de liasses d'archives. Donc, j'ai travaillé à la fois sur les archives des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, un peu de la Gironde, un petit peu du Gers aussi, pour essayer de trouver, à partir des inventaires qui avaient déjà été réalisés, ben, des éléments qui m'aidaient à comprendre cette histoire-là, qui n'était pas tout à fait l'histoire de la sorcellerie, mais l'histoire de la répression de la sorcellerie. Depuis, en gros, parce que j'ai pu remonter jusqu'au 14e siècle, donc 14e siècle en Basse-Navarre, jusqu'au 19e siècle, puisque j'ai été jusqu'au premier recueil de folkloristes pour essayer de voir ce qu'il restait de cette histoire de la répression de la sorcellerie et des procès de la sorcellerie et de la croyance à la sorcellerie chez les folkloristes et aussi chez les curés locaux, puisqu'il y avait eu des enquêtes, des grandes enquêtes lancées par les curés sur les croyances de leurs paroissiens au milieu du 19e siècle, notamment dans les Landes. Donc, il y avait des outils là qui étaient intéressants. Voilà.
Alors là,
Et donc, ça m'a passionné. Voilà.
La sorcellerie, qu'est-ce que c'est exactement? On parle toujours de sorcière, beaucoup plus que de sorcier. D'ailleurs, j'ai remarqué, c'est une profession qui a l'air éminemment féminisée. Mais qu'est-ce que c'est qu'une
Alors, oui, alors ça, c'est quelque chose
sorcellerie?
contre lequel je m'élève régulièrement, parce qu'il y a eu depuis quelques décennies, on va dire, une récupération par les mouvements féministes notamment de l'image de la sorcière, qui n'est absolument pas l'image de la sorcière telle qu'on la voit dans les archives, dans l'histoire, dans ces procès de sorcellerie. Donc c'est une image qui a été transformée notamment grâce à Michelet, son ouvrage sur la sorcière au XIXe siècle, et puis par des gens qui ont voulu représenter la sorcière comme étant une femme qui connaissait tous les secrets de la nature, les herbes, les plantes, etc., une guérisseuse et tout, alors que à la grande époque des procès de sorcellerie, où bien sûr il y a une majorité, on ne peut pas le nier, il y a une majorité de femmes qui ont été poursuivies, 75% à peu près en général dans toute l'Europe, mais quand même 25% d'hommes. Dans certaines régions comme la Suisse, on arrive à 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc c'était pas, mais c'était pas les femmes en tant que guérisseuses, absolument pas. C'était la femme en tant que femme. Et pourquoi? Parce qu'on oublie souvent de dire que si les femmes ont été victimes, les femmes ont été essentiellement des accusatrices. Et on oublie de mentionner que les procès naissaient souvent de jalousie et de discours de femmes par rapport à d'autres femmes, ou de jeunes enfants, d'adolescents par rapport à des femmes. Ce n'étaient pas les juges qui étaient des féminicides ou des obsédés sexuels. Ou des... Non, les juges, ils arrivaient quand il y avait des affaires qui étaient déjà en cours, où la renommée, où le bruit, la rumeur faisait que certaines femmes étaient taxées de sorcellerie. Et à l'époque, la sorcellerie, c'était quoi? C'était essentiellement, dans cette grande époque des procès de sorcellerie, c'était le contrat avec le diable. C'était la sorcellerie diabolique. Ça n'avait rien à voir avec la fabrication de poisons et tout. Sauf que les poisons, bien sûr, ils existaient dans le sabbat imaginaire. Et les croyances, donc, qui avaient été diabolisées à partir du 14e, début du 15e siècle, considéraient que le malheur, celui qu'il fallait éliminer, l'ennemi, c'était le diable, avec comme servante les plus affidées, je dirais, les femmes. Donc voilà, il y a toute cette conception de la sorcellerie diabolique avec l'envol nocturne des sorcières, etc., pour lequel d'ailleurs on n'a jamais eu de preuves, on n'a jamais fait un flagrant délit de sabbat. On n'a jamais trouvé des onguents magiques qui permettaient de passer par la fenêtre ou par la cheminée sur un balai pour aller au sabbat. Donc tout ça, c'est de l'imaginaire. Et au XVIIe siècle, quand on a commencé à se rendre compte et à réfléchir avec la raison, rationnellement, pour dire, mais en fait, de tout ça, qu'est-ce qu'on a comme preuve? Bien, on n'a aucune preuve, sinon des rêves, de l'imagination, de l'illusion. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un changement des mentalités. Et à partir de 1682, par un édit royal sur la justice, on considère que la sorcellerie n'existe plus en tant que réalité. Et ce sont ceux qui font croire à la sorcellerie qui vont être poursuivis à partir de ce moment-là. C'est-à-dire les charlatans, les gens qui se mêlent de médecine, de soi-disant médecine, alors qu'ils n'ont pas les diplômes, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir la poursuite contre les médecins empiriques, contre les faux magiciens, etc.
Qui c'est qui a mené la guerre contre les sorciers et sorcières? C'était essentiellement l'Église, j'imagine, qui voyait là une concurrence, entre guillemets, déloyale.
Alors, au départ, c'est l'Église, bien sûr, qui a conçu tout ce code des sorciers, on va dire, avec le diable, etc. Une église qui avait poursuivi au XIIe, XIIIe siècle toutes les hérésies, notamment les cathares, les albigeois. Et une fois que les cathares, les albigeois, c'est-à-dire dans les années 1320, ont été pratiquement éliminés, ben ils sont passés à toutes les autres hétérodoxie, en quelque sorte. Hein. Et donc, ben, on s'est préoccupé, tous les gens qui ne pensaient pas comme il fallait penser. Et donc, ces gens qui faisaient des choses un peu particulières, qui faisaient de la nécromancie, parfois de l'astronomie aussi, de l'alchimie, bon, ben voilà, tous ces gens, ils étaient un peu... Voilà. Mais, en fait, petit à petit, c'est le diable qui est apparu. Et donc, on a lutté contre la secte du diable. Donc, ce n'était pas contre des individus particulièrement, c'était contre les gens qui faisaient partie de cette secte dans laquelle on adhérait en faisant un pacte avec le diable, qui imposait une marque parfois sur le corps des sorciers et sorcières, marque qu'on essayait bien sûr de trouver à toute force, et qui était symbolisé par le baiser sur le derrière du diable, qui était donc l'inverse du baiser qu'on donnait sur la figure des personnes qu'on aimait. Donc voilà, tout ça c'est l'Église, mais l'Église a été très vite, je dirais, sauf dans les pays où l'Inquisition, comme en Espagne, a poursuivi, mais très vite c'est la justice laïque et la monarchie qui s'est préoccupée de ça et qui a poursuivi les sorciers. Ce sont les parlements, ce sont les juges locaux, que ça soit d'ailleurs dans les pays, ça c'est aussi à dire, c'est que ça soit dans les pays protestants ou catholiques. Les protestants n'ont pas été les derniers à lutter et à faire brûler des sorciers ou des sorcières, et notamment beaucoup d'hommes dans les pays protestants. Donc voilà, vous voyez, tout ça est très complexe, mais c'était en quelque sorte une pensée unique à l'époque. C'est-à-dire que toutes les couches de la société, que ça soit les couches les plus savantes, les plus élevées, que les plus humbles, croyez en la réalité des sorciers, des sorcières, du sabbat et de la présence du diable.
Qui c'était qui était sorcier ou sorcière, ou pourquoi le devenait-on à l'époque, si tant est qu'on puisse le...
Ah ben là, on pouvait le devenir, vous et moi pouvions devenir sorciers si nous étions accusés de choses qui étaient, par exemple, que ben, vous aviez une vache qui était morte, vous aviez aussi à côté votre enfant qui avait eu une crise d'épilepsie, qui tombait régulièrement par terre, vous aviez le champ qui avait été grêlé alors que le champ du voisin ne l'avait pas été. Donc vous voyez, il y avait tout un tas de conflits sociaux aussi qui se résolvaient par l'accusation en sorcellerie.
Ça veut dire qu'il n'existait pas véritablement, il n'y avait pas de sorcier, ça n'existait pas.
Ben non, tout ce qui était le malheur qui pouvait toucher soit des individus, soit la communauté, pouvait être analysé comme provenant d'actes de sorcellerie.
Ça s'appelle un bouc émissaire, c'est ça ?
C'était des boucs émissaires, effectivement. Et quand vous aviez, comme au Pays Basque, un juge qui arrivait en plein milieu d'affaires qui, depuis 4 ans, secouaient tout le pays, où tous les gens commençaient à parler, effectivement, de la présence des sorciers, qui avaient des tempêtes, qui avaient des catastrophes atmosphériques, qui avaient des épidémies qui touchaient la communauté, eh bien, à ce moment-là, le juge, il était sur un terreau extrêmement favorable. Et à partir du moment où il était là, vous aviez des dizaines de personnes qui venaient dénoncer ou avouer qu'ils étaient sorciers ou dénoncer d'autres personnes pour fait de sorcellerie. Mais comme rien ne pouvait être prouvé, c'était facile, c'était une accusation qui reposait sur une croyance établie vraiment dans toute la société. Donc, il y avait toujours certainement des guérisseurs qui existaient, mais ceux-là, on les voit pas. Ils n'ont jamais été accusés pour avoir fait ce genre de choses. Vous voyez ? Ça n'est qu'après qu'on a pensé que c'était lié à ça.
Et nos sorciers et sorcières modernes, ils existent ?
Alors, bien sûr, il y a les ouvrages qui sont pas très anciens, de Jeanne Favré-Saada, par exemple, sur le Berry ensorcelé, où elle-même est devenue d'ailleurs désensorceleuse. Bon, ce sont des zones où on croit encore très fermement qu'il y a des jeteurs de sorts, et donc s'il y a des jeteurs de sorts, il y a des désenvoûteurs, c'est-à-dire des gens qui s'arrogent le droit de pouvoir régler ces problèmes-là. Quand vous voyez le nombre de marabouts un peu partout en France qui sont prêts même maintenant à guérir la Covid-19, voilà, donc voilà, il y a toujours dans les zones rurales notamment, des gens qui sont des rebouteux, des guérisseurs, qui ont des capacités d'ailleurs, il y a des magnétiseurs les magnétiseurs qui se développent beaucoup, on pourrait
dire
quelque part que ce sont des sorciers, ouais. Quelque part, parce qu'ils font une imposition, etc. Donc, voilà, où on considère que ce sont des gens qui œuvre pour le bien-être d'autres personnes, soit physiques, soit psychologiques. Moi, je dis toujours, je donne toujours cet exemple. Mon oncle était médecin de campagne dans les Landes, et il me disait, quand je lui en parlais, il me disait, mais moi, il y a certains de mes patients, une fois que j'ai vu que je ne pouvais pas les traiter médicalement, je les envoie chez le guérisseur local, parce que leur mal était plus psychologique ou psychosomatique que physique, et que lui n'avait pas la formation à l'époque, ni le don, je dirais, pour faire ça. Mais lui, il travaillait quelque part en connivence avec ces gens-là, qui peuvent être taxés de sorcellerie, parce que, effectivement. Mais si on regarde beaucoup de choses touchant même la religion catholique, si vous vous mettez en recul, si vous êtes un simple observateur, disons impartial, vous allez à la grotte de Lourdes. Vous voyez les gens qui se frottent sur la roche, qui prennent de l'eau bénite ou de l'eau de la grotte. Ce sont des gestes qui sont en relation avec les forces de la nature. Ce sont des gestes qui sont des gestes magiques. Vous voyez, la frontière entre la croyance, le miracle, qu'est-ce que c'est? Il y a d'ailleurs des inquisiteurs qui disaient, mais il n'y a pas beaucoup de frontières entre le miracle et la sorcellerie. Ou un saint qui fait une lévitation, est-ce que c'est de la sorcellerie? Vous voyez?
On est toujours le sorcier de quelqu'un, finalement.
Voilà, tout à fait.
Alors, revenons un peu à vous. Vous êtes aujourd'hui retraité, mais vous êtes resté membre d'associations, bien évidemment, culturelles. Amateur de champignons, ça c'est toujours délicat, la recherche de champignons, parce que on ne se transmet pas les bons endroits, et puis surtout, chaque propriétaire est jaloux de son terrain. Et aussi amateur de course landaise. Alors vous allez toujours voir ce genre de spectacle. C'est un spectacle d'ailleurs ou c'est un sport?
C'est les deux. C'est les deux. Pour les gens qui le pratiquent, c'est vraiment un sport. Et d'ailleurs, la Fédération française de course landaise est reconnue depuis 1973 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, c'est vraiment un sport. Les gens qui le pratiquent sont licenciés. Et d'ailleurs, je m'engage là actuellement, puisqu'il y a des élections à la Fédération française de course landaise dans un mois. Je me suis engagé sur une liste pour travailler au sein de la Fédération française sur le côté culture et patrimoine, histoire de la course landaise, sur le développement de cette histoire et de la valorisation de cette histoire au sein de la Fédération. Donc, effectivement, c'est un sport qui est vivant, qui vient d'ailleurs aussi il y a quelques mois d'avoir le label d'être inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, donc c'est pas rien, où elle a rejoint la course camarguaise,
Alors,
d'ailleurs,
j'allais vous en
et
parler.
la course...
Quelle différence vous faites entre la course camarguaise et la course landaise? C'est pas du tout la même
Alors,
chose.
non, c'est pas du tout la même chose. La course camarguaise se fait avec des bœufs, des biou, comme on dit, et non pas, on appelle ça des taureaux, mais ce sont des bœufs, en fait. Alors que la course landaise se fait avec des vaches qui sont de vrais athlètes, qui ont une carrière, qui ont un nom. Les bœufs aussi
Et
en
lui aussi.
Camargue ont un nom. Le principe de la course camarguaise, c'est d'essayer d'attraper des petits rubans, des petites cocardes et des ficelles qui sont fixées sur les cornes, autour des cornes du bœuf. Alors que le sport de la course landaise, le jeu de la course landaise, c'est d'éviter la charge de la vache face à elle, soit par un écart pour les écarteurs, soit par un saut pour les sauteurs. Donc voilà. Et donc, c'est un sport qui est pratiqué encore, qui n'est pas d'ailleurs que landais, hein, puisqu'il se pratique aussi bien dans le Lot-et-Garonne, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Landes, Haute-Pyrénées également. Il y a quelques places là. Donc vous voyez, toute la Gascogne, c'est vraiment, on devrait l'appeler la course gasconne d'ailleurs, plus que la course landaise, même si effectivement les Landes ont été son noyau dur au départ.
Alors, je propose toujours à mes invités de nous parler d'un certain nombre de choses. La première question, c'est parlez-moi d'une œuvre d'art. Vous avez fait le choix de la Belle Ferronnière de Léonard de Vinci. Pourquoi ce choix?
Oui, ben je crois que je suis tombé amoureux de la Belle Ferronnière. La première fois que je l'ai vue, j'étais à Paris jeune étudiant à l'école des Chartes, et le dimanche, le Louvre était gratuit, donc ce qui était bien pour un étudiant. Et puis quand on avait des amis qui venaient, on allait au Louvre le dimanche pour leur montrer le Louvre. À l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup moins de monde que maintenant. Alors que tout le monde allait voir la Joconde, moi, je suis tombé en extase presque devant la belle ferronnière qui me regardait et que j'ai trouvé d'une beauté mystérieuse, fatale, exceptionnelle, beaucoup plus que la Joconde. Et d'ailleurs, quand j'étais, il se trouve que le bureau que j'occupais au ministère de la Culture quand j'étais inspecteur était à quelques pas, était rue des Pyramides, à quelques pas du Louvre, et que ça me permettait entre midi et deux, comme j'avais une carte qui avec laquelle je pouvais rentrer, bien sûr, au Louvre quand je voulais, d'aller voir régulièrement, d'aller dire bonjour à ma belle ferronnière.
La journée particulière qui vous a marqué, vous m'avez dit, et je vous rejoins un peu sur cette journée, l'explosion d'AZF le 21 septembre 2001, et vous précisez même dans la réponse que vous m'avez faite à 10h17.
Oui, effectivement, parce que nous étions à cette époque, à ce moment-là précis, nous étions avec quelques confrères et consœurs aux archives municipales, donc en haut de Toulouse, dans le fameux réservoir de Périoles, et nous étions en train de monter une association qui malheureusement n'a pas eu beaucoup d'avenir, qui s'appelait Archives d'Oc, d'apostrophe Oc, et donc qui était une association faite par nous, archivistes, pour la publication d'œuvres, enfin de manuscrits inédits en occitan. De l'époque médiévale et de l'Ancien Régime. À ce moment-là, on a entendu donc une grosse explosion. Le bâtiment s'est pratiquement soulevé. Il se trouve que à ce moment-là, il y avait deux ouvriers qui travaillaient dans la cage d'ascenseur des archives. Et je me suis dit que c'était ça qui avait explosé. Et que je suis descendu, j'avais les jambes coupées, je suis descendu, je vais trouver des morceaux de. Et en fait, eux qui étaient dans la cage d'ascenseur n'avaient rien entendu.
Ah oui.
C'est impressionnant. Par contre, toute la poussière des travaux de construction des archives municipales qui étaient sous les faux plafonds, s'était complètement diffusée dans l'air et on avait l'impression que c'était de la fumée. Donc c'est pour ça qu'on avait pensé que l'explosion se passait chez nous. Et ensuite, ben, il a fallu d'abord avoir du réseau pour pouvoir comprendre exactement ce qui s'était passé. On voyait tout ce qui le panache de fumée vers AZF, puisqu'on était en hauteur, nous, sur les hauts de Périoles. Et donc, on a mis plusieurs minutes, longues minutes. Et ensuite, on s'est confiné avec mon personnel. On est allé juste acheter quelques petites choses à manger. Et on s'est confiné jusqu'à ce qu'on sache qu'on pouvait sortir parce que le vent n'était pas de notre côté.
La personne qui vous a marqué dans votre vie, dans votre carrière, vous m'avez dit Jean-François Soulet, qui était-il?
Alors, Jean-François Soulet est un historien des Pyrénées. Et en fait, je l'ai connu, il a longtemps professé à l'université du Mirail, il est à la retraite maintenant. Je l'ai connu, en fait, à son premier poste, je crois bien, c'était au lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan, où j'étais en seconde. Et c'est le premier professeur qui nous avait fait en soirée, un panel des professions liées à l'histoire et à la géographie. Et donc, c'est là que j'ai entendu pour la première fois parler de l'école des Chartes. Alors, dans mon esprit, et il m'a dit, quand nous sommes revus à Toulouse après, il m'a dit que ce n'était pas vrai que j'avais inventé ça. Dans mon esprit, il avait dit que l'école des Chartes était une école qui était difficile, bien sûr, puisque c'était une école supérieure, avec concours, et dans laquelle on ne pouvait rentrer que par piston ou que parce qu'on était fils d'archiviste. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fils archivistes qui devenaient archivistes. Et en fait, j'ai gardé ça dans l'idée, alors c'est une idée que je m'étais peut-être formée, mais qui m'a soutenu pour montrer qu'on pouvait rentrer à l'école des Chartes sans piston, puisque moi, je ne connaissais absolument personne. Et ça a été un peu ma force et mon combat de m'accrocher pour pouvoir avoir ce concours et pour prouver que ben, ce n'était pas vrai.
Nous sommes quasiment à la fin de l'émission. On termine rituellement en parlant de livres. Alors, vous avez fait le choix d'un livre milléniaux de Manuel Vasquez Montalban, pardon, chez Christian Bourgeois. C'est un dernier ouvrage, hein, je pense, publié par Vasquez Montalban. Pourquoi ce choix?
Ben, parce que bon, j'adore Pepe Carvalho, qui est le détective que met en scène Vasquez von Talbán, qui est un détective un peu anarchiste, un peu humaniste, qui a lutté contre les franquistes, etc. Puis dans un Barcelone, une Barcelone que j'ai connue aussi, que j'ai aimée à cette époque-là. Et donc, voilà, et puis c'est un détective qui est très attaché, qui est un épicurien aussi, qui est très attaché à la cuisine, au plat. Et ça me plaît bien parce que je suis aussi un peu gourmand et gourmet. Et donc, voilà, et c'est une écriture extraordinaire, moi je trouve. Millenio, c'est ben voilà, c'est un peu ça, la synthèse de toute son œuvre. Ce parcours un peu initiatique de Carvalho autour du monde, qui se confronte à différents régimes, à différents pays, voilà, avec son fidèle biscuitaire. Donc, moi, c'est quelqu'un dont j'ai vraiment pleuré la perte quand il est mort.
D'ailleurs, ils ont sorti un livre de recettes de Pepe
Tout
Carvalho,
à fait, que j'ai bien sûr dans ma bibliothèque.
voilà, moi aussi. Alors moi, je vais vous parler, pour rester un peu dans le ton de notre conversation, je vais vous parler d'un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, François Bon, c'est Le dernier chasseur de sorcières, de James Monroe, Au diable Vauvert. Ça vous parle?
Non, non, je n'ai pas lu celui-là.
Alors ça se passe en 1688, c'est Jeannette qui est fille d'un célèbre chasseur de sorcières, elle a 12 ans, et sa tante Isobal, qui est une grande admiratrice de Newton, va se voir accusée de sorcellerie parce qu'elle a réussi, cette tante Isobel, à expliquer des phénomènes naturels tenus jusque-là pour divins. Et Jeannette va aller à Cambridge pour convaincre Newton de venir témoigner à son procès. Voilà, mais Isobel va être condamnée au bûcher et Jeannette va jurer de consacrer sa vie à l'abolition de la loi contre la sorcellerie. Alors, c'est un livre assez épais, mais c'est un cocktail assez détonnant. Il y a de l'érudition, il y a de la fantaisie et puis il y a une espèce de relecture de notre histoire philosophique. Voilà, c'est un livre se lit très facilement, très agréable. Le dernier chasseur de sorcières au Diable Vauvert, très belle maison d'édition
Tout à fait, que je connais, par
de
contre.
James Monroe. Ben, écoutez, vous avez un de ses fondateurs devant vous, puisque j'ai fondé ça il y a 22 ans avec Marion Mazory, qui est une fabuleuse éditrice. Voilà, nous sommes arrivés. Alors, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses, François Borde, mais il n'est pas interdit de penser qu'on les dira un jour prochain. Il y a cette exposition, peut-être que nous pourrions visiter ensemble, les micros en main, pour la décrire un peu pour nos auditeurs, si vous en étiez d'accord.
Oui, tout à fait, oui.
Mais pour cela, faudrait-il encore que le Covid nous laisse un peu de répit, nous laisse vivre, ou que nous soyons tous vaccinés, ce qui est mal parti, puisque on supprime des vaccins, on va les remettre, enfin bon, on va jeter l'opprobre sur certains et peut-être faire que certains de nos concitoyens qui étaient déjà méfiants le soient encore plus. Bref, on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge. Merci de ce moment, François Borde. En espérant vous retrouver bientôt, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Yanis Boudin qui nous la montera, une émission que vous pourrez retrouver sur le site d'Esprit Occitanie et également sur l'application dédiée pour smartphone, parce qu'il y en a une aussi. Merci encore une fois François Borde, bonne semaine à toutes et à tous.
Merci à vous.